Les grandes expéditions scientifiques. Marcel Griol et la mission Dakar-Djibouti. Arnaud Contreras, Anna Smuk. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une escale de la série Les grandes expéditions scientifiques, qui va nous faire traverser l'Afrique de Dakar à Djibouti. Nous vous emmenons pendant une heure à la rencontre de l'ethnologue Marcel Griol, à nos côtés Éric Joly, anthropologue, chargé de recherche au CNRS. Départ immédiat vers l'Afrique, enregistré sur cylindre dans les années 30. Bonjour Éric Joly.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous avez souhaité rassembler dans un ouvrage, des cahiers, toutes les connaissances concernant la mission Dakar-Djibouti ?
Oh, parce qu'il y avait déjà beaucoup de travaux sur Dakar-Djibouti, qui est la mission la plus connue, la mission ethnographique des années 30, la plus célèbre. Mais il manquait justement, en fait, l'ensemble des documents, des articles, des conférences, pour avoir une idée, justement, de la production scientifique et littéraire, d'ailleurs, de tous les membres de la mission. Donc c'était l'occasion de réunir des textes finalement très divers qui pouvaient aller du rapport à la conférence radiophonique en passant par la note ethnographique.
Alors le personnage, on va dire le chef de cette mission, Marcel Griol, est-ce que vous pourriez nous le présenter ?
En 1931, donc, quand il se lance en tant que chef de cette mission, donc c'est sa deuxième mission africaine. Il a déjà été en Éthiopie en 28-29. C'est un élève de l'Institut d'ethnologie. L'Institut d'ethnologie, c'est un institut qui marque un peu la naissance de l'ethnologie française en tant que discipline institutionnelle. Et c'est quelqu'un qui est un ancien militaire qui a ensuite bifurqué vers les études d'amharique, c'est-à-dire l'amharique est une langue éthiopienne, et qui ensuite s'est lancé dans des études d'ethnologie à partir de 1924-1925. Enfin, il commence, justement, il est l'un des premiers étudiants de ce fameux institut d'ethnologie à partir de janvier 1926. Et c'est quelqu'un qui est aussi, comme beaucoup de ses compagnons, quelqu'un qui aime la littérature. Donc, dans les documents qu'on a rassemblés, on va voir, il y a aussi des documents de type littéraire. Il est associé, d'ailleurs, avec Michel Léris, qui va être lors de cette mission, qui est un célèbre écrivain, enfin en tout cas sa célébrité va venir plus tard. C'est aussi donc un homme en tant qu'ancien militaire, en tant que personne qui a déjà une expérience de terrain, ça lui donne effectivement l'autorité pour conduire cette mission, cette grande mission qui va traverser l'Afrique d'ouest en est.
Qu'est-ce qu'il étudie quand il est justement en 1925? Quand il commence l'ethnologie ?
Alors, donc oui, il a commencé par des études de langue, mais en ethnologie, il va suivre notamment les cours de Mauss, hein, dès janvier 1926, c'est-à-dire des cours d'ethnographie descriptive. Mauss est un personnage vraiment fondateur pour la discipline. Il va suivre aussi des cours de linguistique, mais tous ces cours sont un peu des instructions pour savoir comment se conduire sur le terrain, puisque l'Institut d'ethnologie, un de ses objectifs, c'est de former des ethnologues professionnels qui vont partir sur le terrain, ce qui est une nouveauté. Mauss n'a jamais été sur le terrain, par exemple. C'est donc beaucoup d'instructions concrètes pour savoir comment agir sur le terrain, comment faire des enquêtes de terrain au niveau linguistique, au niveau préhistoire, parce qu'il y avait beaucoup de disciplines, et au niveau ethnographique.
Comment est-ce que Marcel Griol se distingue des autres jeunes ethnologues à l'époque ?
Il a beaucoup de points communs. La grande différence, encore une fois, c'est qu'il a déjà une expérience d'ethnologue, d'enquête ethnographique par rapport à tous les autres, hein, puisque Léry, ça va être son premier terrain quand il part. Scheffner, qui est le musicologue de la mission, c'est aussi son premier terrain africain, même s'il a... il y a dans l'équipe des deux personnes qui ont une expérience de l'Afrique, mais c'est dans les anciens coloniaux qui en fait n'ont pas eux d'expérience ethnographique proprement dite.
Alors pour parler de la première expérience, on va dire ethnographique de terrain, l'Éthiopie, qu'est-ce qu'il y fait exactement, Marcel Griaule ?
Il va d'abord, enfin ça c'est le grand objectif des ethnologues de cette époque, c'est de choisir des terrains lointains, plus ou moins inaccessibles. Donc son premier terrain, ce sont les hauts plateaux éthiopiens. Pour y accéder, il faut une caravane de mulets. Donc c'est un peu des expéditions héroïques. C'est peut-être ça aussi la différence avec notamment d'autres de ses compagnons, c'est que Griaule aime conjuguer science et aventure, aventure héroïque. C'est un peu un explorateur aussi. Et donc en Éthiopie, il va travailler sur tous les traits de la société des hauts plateaux, des Amara, mais aussi collecter des objets. Ça, c'était aussi un des grands objectifs, c'était de ramener des objets pour le musée d'ethnographie du Trocadéro. Mais en 1928-29, ils sont simplement que deux. Hein. Il a simplement un collaborateur qui n'est d'ailleurs pas du tout ethnographe, qui est un peu un technicien. Et donc, le grand changement avec Dakar Djibouti, c'est que Dakar Djibouti, c'est une expédition énorme, avec beaucoup de personnes et aussi un trajet qui s'inspire un peu de la croisière noire, mais dans l'autre sens. La croisière noire traversait l'Afrique du nord au sud. Là, il traverse l'Afrique d'ouest en est.
Est-ce que dès l'Éthiopie, dès cette mission en Éthiopie, Marcel Griaule affirme sa vision de l'ethnographie ?
Oui, je crois. C'est-à-dire, en tout cas, il n'a pas encore, en fait, tous les éléments. Il bricole encore lors de cette mission au niveau, disons, des méthodes ethnographiques. Hein. Il essaye d'appliquer les méthodes que Mauss ou le professeur de linguistique Marcel Cohen lui ont inculqué à l'Institut d'ethnologie ou à l'INALCO, mais il n'a pas encore en fait une méthode plus normative pour faire ces enquêtes. Mais en fait, on voit déjà effectivement qu'il combine dans l'aventure et c'est presque paradoxal parce qu'il combine des enquêtes rigoureuses comme on lui a appris avec vraiment la volonté d'être exhaustif sur un sujet donné, de traiter de tous les domaines à l'intérieur d'une société pour saisir la totalité d'une société, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui on trouverait ça excessif, enfin totalement illusoire, mais c'était l'objectif de l'époque. Mais il y a cette idée aussi qu'il faut faire un voyage d'exploration, et du reste il rapportera un livre romancé de son voyage où on le voit effectivement faire une traversée héroïque du Nil, revenir de façon à mulet de cette mission. C'est le fameux livre Les Flambeurs d'Hommes, qui va avoir d'ailleurs un prix, le prix Gringoire en 1934.
Et nous écoutons tout de suite Marcel Griaule, des années plus tard, qui nous offre sa vision ethnographique.
Dans les sociétés indifférenciées, la démocratie est pour ainsi dire à étage. Il y a pouvoir souverain de groupe emboîté ou juxtaposé et qui s'exerce par le conseil du clan, généralement composé des anciens mâles, le conseil des clans, lorsque la tribu est réellement articulée, le conseil des tribus, lorsque la nation est articulée. Assemblée générale du clan, de la tribu, confondue généralement sous le nom de palabre, voire, par exemple, dans nos régions, le Landesgemeinde suisse. La démocratie n'est donc pas le fait d'un État, mais de segments de l'État à base de clans, de tribus, chaque segment étant lui-même hiérarchisé. Et pour comprendre ce fonctionnement, il convient donc de connaître la composition des segments de l'État, l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes qu'ils se font des autres, c'est-à-dire le fondement même des représentations collectives, et ceci n'est possible que si l'on sait que l'organisation sociale et politique est un reflet de l'organisation cosmique. Le monde humain, et chaque peuple est persuadé qu'il est à lui seul le monde humain, est un résumé de l'univers, le clan correspondant par exemple aux étoiles, aux catégories de plantes, aux catégories d'animaux. Chaque tribu est un résumé de l'humanité, chaque clan résume la tribu, et chaque famille, le clan, enfin, l'individu est lui-même le représentant du groupe, ce qui fait que l'homme est un microcosme résumé du macrocosme.
Marcel Grilliol qui nous parle d'organisation cosmique de la société. Éric Joly, est-ce que c'est une vision habituelle dans ces années-là de parler de dimension divine, de dimension cosmique?
Alors là, c'est un discours en fait qui a déjà évolué. On est forcément après-guerre avec ce discours, hein, parce que dans les années 30, on a vraiment en fait des travaux beaucoup plus documentaires. Hein. Il s'agit de justement, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une vision exhaustive de la société, d'archiver la totalité d'une société. Après-guerre, on est plutôt, Grilliol cherche plutôt à saisir effectivement une cosmogonie qui régirait en fait l'ensemble de la société, l'ensemble des institutions. Donc effectivement, ça va être dès sa première mission après-guerre en 1946, c'est la fameuse rencontre avec le chasseur aveugle au Gotemelli, dont il va tirer ce fameux livre qui est aujourd'hui un best-seller, Dieudo, et où ces entretiens en fait racontent, donnent à voir une cosmogonie déjà très très complexe. C'est une façon effectivement de revaloriser à cette époque. Alors dans la tradition orale de ces sociétés, en 1946-48, on est encore dans une vision en Europe de sociétés primitives, sauvages, etc. Donc effectivement, c'est un discours qui est nouveau pour l'époque, mais qui en même temps se situe dans le sillage de mouvements comme la négritude, comme la présence africaine qui commence à publier à ce moment-là. Mais c'est un discours qui est qui est neuf, mais qui va être très vite aussi critiqué en fait par d'autres ethnologues.
Et c'est un discours qui est très éloigné du pragmatisme qui préfigure la mission à Dakar Djibouti, où Grilliol est beaucoup plus pragmatique à cette époque-là.
Oui, c'est ça. Oui, on est totalement là. En fait, s'occuper de la cosmogonie, c'est-à-dire, ça veut dire ne plus regarder ce qui est visible, tous les aspects visibles de la société, la culture matérielle. Enfin, c'est regarder la culture matérielle ou regarder tout ce qui est visible par le prisme du mythe. Donc, c'est le mythe qui prime. Et une des critiques, d'ailleurs, qui va être faite à Grilliol, c'est qu'effectivement, il se coupe de la réalité visible de plus en plus en approfondissant un mythe de plus en plus cohérent, de plus en plus complexe. C'est un objectif extrêmement louable à cette époque, mais qu'il conduit parfois trop loin.
Alors, je reviens sur Marcel Grilliol, très pragmatique. La mission Dakar Djibouti intervient entre deux musées. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment naît cette idée de mission Dakar Djibouti?
Grilliol revient de sa première mission éthiopienne en 29. En fait, il a déjà l'idée de retourner au moins en Éthiopie, puisque en fait, dès ses premières lettres de l'Éthiopie, en fait, il parle de retourner voir des sociétés justement qui sont menacées de disparition, comme les pêcheurs Woïto du lac Tana en Éthiopie. Mais les choses vont très vite. Il rencontre l'ERIS notamment dans la revue Documents, qui est une revue surréaliste, enfin pas surréaliste, des dissidents surréalistes, bah, il séduit Léris, donc c'est déjà un premier. Et dès 1930, en fait, il dépose un projet qui va avoir le soutien de l'Institut d'ethnologie, bien sûr, mais aussi du musée d'ethnographie et notamment d'un personnage qui va jouer un rôle très important au cours de cette mission, Georges-Henri Rivière, qui est le sous-directeur du musée d'ethnographie et qui est un personnage qui a un réseau de connaissances dans les médias, parmi les mécènes, assez extraordinaire et qui va aider à monter un projet énorme en jouant justement sur les médias, sur les politiques aussi, les réseaux politiques, etc., puisque cette mission, elle va avoir, c'est la seule mission ethnographique française qui va avoir un financement voté par le Parlement.
Pourquoi est-ce qu'il y a une insistance à créer cette mission? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de soutien pour créer cette mission? Qu'est-ce qu'elle apporte à la société française dans les années 30?
C'était l'idée du côté justement des promoteurs de la discipline qui se crée, qui s'institutionnalise, qui se professionnalise à cette époque. C'était l'idée de faire connaître cette discipline à la fois au grand public et à la fois aux hommes politiques, et de légitimer en fait cette discipline pour favoriser son institutionnalisation. La première chaire d'ethnologie vient plus tard, ça va être d'ailleurs Griol qui va l'obtenir en 1942. Donc il y a une volonté de professionnalisation et d'institutionnalisation de cette discipline, une volonté aussi de financement du musée d'ethnographie, de l'Institut d'ethnologie. Et de ce point de vue, Dakar-Djibouti va aboutir à ses objectifs, puisque ça va être une mission qui va être très médiatisée, qui va obtenir énormément de financement, que ça soit public ou privé, qui va être aussi une mission qui va être sponsorisée par des industriels. Donc en fait, c'est là on voit aussi la patte de Georges-Henri Rivière qui s'est tout organisé, etc. Donc effectivement, ça va permettre de faire connaître cette discipline.
Et nous écoutons Germaine Dieterlin parler de surréalisme, de combat de boxe, pour parler du financement de cette mission ethnographique.
À propos de Georges-Henri Rivière, bon, pas seulement à cause de lui, mais à cause de tout l'environnement. C'était à cette époque que, toujours faisant de la musique, voyant des musiciens, voyant des artistes, dont certains qui étaient de mes cousins, pratiquant avec aucune espèce de talent des arts que je considère comme fondamentaux, qui sont la musique, le chant bien entendu et tout ce qui entoure, j'étais amenée à le connaître. Et qu'un jour, il nous a demandé à titre de bénévole et d'aide, c'est-à-dire à participer financièrement à ce qu'était le match d'Al Brown, qui était un noir américain qui a mis son titre de champion du monde en rade pour obtenir de l'argent à donner à la mission Dakar-Djibouti. Et ne connaissant rien à ce programme à l'époque, mais voyant ce que c'était, l'importance de la chose, et ayant commencé à mettre les pieds dans ce qu'était la recherche ethnographique, oui, nous sommes allés. Si bien qu'on a vu, j'ai vu Al Brown gagner son match et donner je ne sais plus quelle somme très importante à une mission française, qui partait pour 2 ans traverser l'Afrique de Dakar à Djibouti et qui avait fait l'objet d'une loi 31 mars 1931, je m'en souviens encore. À cette époque-là, ce groupe, dirigé par Marcel Griol, qui était composé d'un très grand nombre de chercheurs et de spécialistes et de techniciens, préparait cette mission et avait fait dans l'ancien Trocadéro l'exposition de ce qu'ils avaient recueilli, de ce que tout on leur avait offert, de tout ce qu'ils avaient pu récolter d'utile, tous les bagages possibles et imaginables, les gens qui avaient offert un bateau, d'autres qui avaient offert une voiture, je vous parle, et c'est toujours le sens intense de Georges-Henri Rivière à la vie sociale et à la vie même, je dirais, sociale totale, que toutes sortes d'organismes privés avaient fait des dons. Il est parti, non seulement avec une mission officielle gouvernementale, Mais grâce à des dons faits par Renault, Chevrolet, je ne me rappelle plus, etc. Et puis, l'argent récolté à une soirée éblouissante, ultra snob, bien entendu, où Al Brown a joué son titre de champion du monde et où tout l'argent est allé, il a donné immédiatement à cette mission. Il ne faut pas oublier ça. Personne n'était ébloui, on en a vu bien d'autres, en genre éblouissant à cette époque. Parce que c'était éblouissant, à un certain niveau intellectuel. Là, le surréalisme a été une grande, grande époque.
Éric Joly, qui sont Germaine Dieterlin et Georges-Henri Rivière?
Germaine Dieterlin est une collaboratrice au départ bénévole du musée d'ethnographie du Trocadéro. Elle va classer justement les photos ou les fiches de Dakar, Djibouti au retour de cette mission. Et elle va partir en mission pour la première fois en 1937 avec sa collègue Solange de Ganay. Ils vont être rejoints sur le terrain en Pays d'Ogon par Marcel Griot en 1937 toujours. Et par la suite, elle va faire partie de toutes les missions Griot suivantes, c'est-à-dire la mission de 38-39, mais aussi, surtout, toutes les missions après-guerre, où ils vont travailler ensemble en Pays d'Ogon, mais aussi, d'ailleurs, dans les régions voisines, notamment en pays Bambara, c'est-à-dire à l'époque dans l'ex-Soudan français, l'actuel Mali.
Et Georges-Henri Rivière?
Alors, Georges-Henri Rivière, je l'ai dit, c'était un autodidacte qui avait fait de la musique, qui était pianiste, qui avait des liens avec le tout Paris mondain et artistique, qui était le secrétaire au départ personnel d'un célèbre mécène et qui va être repéré par le nouveau directeur du musée d'ethnographie, Paul Rivet, lors d'une exposition. Et son dynamisme, ses réseaux séduisent Paul Rivet et il va le prendre dès 1928 comme sous-directeur du musée d'ethnographie. Et il va ensuite, jusqu'à son départ pour le musée des arts et traditions populaires à la fin des années 30, il va animer le musée d'ethnographie de façon, enfin comme cela vient d'être expliqué par Germaine Dieterlin.
Alors quand on l'écoute, on a l'impression que c'est en effet un rallye, un grand cercle mondain, un club. Est-ce que tous les membres de l'équipe de la mission Dakar-Djibouti font partie de ce cercle mondain?
Non. Alors, c'est vrai que les premiers ethnologues, surtout, enfin, qui étaient bénévoles, appartiennent souvent à la haute bourgeoisie, mais on trouve aussi des... Griot n'appartient pas à la haute bourgeoisie lui-même. On trouve aussi des anciens coloniaux qui ont travaillé en Afrique, comme Éric Lutten, qui va travailler pendant un certain temps au musée d'ethnographie. On trouve des gens comme André Scheffner, qui était musicologue, qui a fait d'ailleurs, avant de partir à Dakar-Djibouti, un livre sur le jazz. Donc on trouve des gens, en fait, quand même relativement différents, unis par la même passion des voyages lointains de l'ethnographie.
Quand la mission part, par quoi, par quel terrain est-ce que cela commence? Est-ce qu'il y a un suivi dès le début par la presse qui relaie en France ces terrains?
Alors oui, c'était l'objectif bien sûr de Rivière, hein, pour les raisons évoquées précédemment, sauf que la presse en fait s'essouffle au bout d'un certain temps, tout simplement parce qu'il est difficile d'envoyer des photos, ou plus exactement, Griot envoie des photos mais voudrait contrôler en fait leur usage, et donc il y a un certain nombre de rapports notamment qui sont envoyés et qui sont publié dans la presse, mais au fur et à mesure que la mission, parce que ça va durer près de 2 ans, cette mission, hein, de mai 1931 à février 1933, au fur et à mesure que la mission avance, en fait, la presse se désintéresse un peu, faute de documents sensationnels à publier. Mais en revanche, quand la mission revient, là, c'est pareil, il y a l'exposition, les médias se réintéressent à cette mission, et là encore, on va voir dans la presse beaucoup d'articles sur le retour de cette mission Dakar-Djibouti.
Les premières escales, le Sénégal?
Oui, le Sénégal, suivant les pays, en fait, ils vont plus ou moins s'arrêter. Au Sénégal, en fait, ils traversent le Sénégal sans vraiment avoir un terrain privilégié, hein. Ils font simplement des boucles, ce qu'ils appellent des tournées, ils appellent ça, autour d'un point, puisqu'ils traversent en fait par le chemin de fer, mais avec les voitures qui sont des voitures Ford ou des camions Ford sur le chemin de fer, et donc à chaque escale, ils peuvent descendre les voitures, faire une tournée dans les villages environnants, mais tout ça se fait très vite avec l'idée, dans ce tronçon, de surtout collecter le maximum d'objets, faire le maximum de photos. Mais ce n'est vraiment que à partir du pays Dogon qu'ils vont s'arrêter pendant plusieurs semaines.
Donc Sénégal, Mali.
Voilà, ils arrivent au Mali. Alors ils font au Mali, ils vont aussi s'arrêter à quelques endroits, notamment dans la région de Kita, mais surtout pour faire des relevés de peintures rupestres, etc. Vraiment les enquêtes ethnographiques qui vont les passionner. Et d'ailleurs, c'était pas prévu cette escale de plusieurs semaines en pays Dogon. C'est vraiment le pays Dogon qui va les fasciner et ils vont rester effectivement assez longtemps là pour faire de véritables enquêtes, pour faire des films, de nombreuses photos, des enquêtes sur les masques, sur les jeux. Et c'est là, en fait, le pays Dogon, le point de départ, d'ailleurs, en fait, de nombreuses missions qui vont suivre et de nombreuses publications, hein, puisque Griol va faire ses thèses à la fois sur les masques Dogon et sur les jeux Dogon. C'était 2 thèses à cette époque. Marcel Griol va faire un mémoire sur la langue secrète des Dogon de Sanga, donc le pays Dogon joue un rôle effectivement central, même s'ils y restent moins longtemps qu'en Éthiopie, qui était le principal objectif de la mission.
Alors on parle beaucoup de Marcel Griol, de l'ERIS, mais combien de membres comporte cette expédition, cette mission?
Ouh là là, alors le mieux c'est que je vous les cite, parce que sinon je ne vais pas dire de chiffres exacts. Il y avait les membres permanents, ce qui vont en fait faire le périple de Dakar jusqu'à Djibouti, c'est Marcel Griol, Michel Léris, Éric Lutten dont j'ai parlé précédemment, et Marcel Larget, qui en fait n'est pas un ethnographe, qui est un peu l'homme à tout faire de la mission et qui était déjà son compagnon, son seul compagnon lors de sa première mission en Éthiopie. Ce sont les 4 seuls membres permanents. Ensuite, il y avait le musicologue dont on a déjà parlé, André Scheffner, hein, qui va jouer un rôle important dans la fondation de l'ethnomusicologie au musée d'ethnographie à l'époque, futur musée de l'homme. Il y a un linguiste, Jean Mouchet, qui est le seul, disons, administrateur, ancien administrateur, enfin non, il est toujours administrateur colonial, mais détaché à la mission. Il y a une autre linguiste, Deborah Schitz, qui rejoint la mission en Éthiopie. Il y a un peintre qui vient, qui est un peintre de la mouvance cubiste, qui connaît les RIS, et qui va rejoindre aussi la mission en Éthiopie avec l'objectif de faire des peintures, des copies, pour échanger contre des anciennes peintures éthiopiennes. Alors, il y a aussi Abel Fèvre, qui est le naturaliste de la mission, qui va rejoindre, qui est un scout, un professeur aussi de sport et de sciences naturelles, qui rejoint la mission en Éthiopie. Après, il y a quelques techniciens qui vont, comme Uktomski et Moufle, qui vont démissionner très rapidement. Et j'espère n'avoir oublié personne, mais c'est possible.
Et nous écoutons maintenant un chant collecté lors de cette mission Dakar-Djibouti, puis Jean Rouche, cinéaste pour qui la rencontre avec Marcel Griol fut fondatrice.
Quand il a fait son projet Dakar-Djibouti, c'était basé sur une conception très rationaliste, c'est de suivre un même parallèle, donc de suivre des zones ayant le même climat pour voir quelles pouvaient être les différences entre l'Ouest et l'Est de l'Afrique. C'est donc un schéma très simple, mais il attendait dans ce voyage, qui est un voyage donc rationnel, géographique, etc., il attendait en même temps de faire l'inventaire des choses qu'il fallait rechercher ultérieurement.
Il cherchait la part d'inconnu.
Et la part d'inconnu, là, il, au détour de la falaise de Mandiacara, il découvre le paradis. Et là, c'était... on a toujours blagué là-dessus. Du premier coup, il est arrivé là. D'autres étaient passés avant lui. Desplagnes, Frobenius, etc. étaient venus là-bas. Et tout d'un coup, il découvre quelque chose. Il a le coup de cœur.
Il le racontait, ça, ce coup de cœur de la falaise de Mandiacara? Ou pas.
Il en parlait, il ne l'écrivait pas, mais on le voit transparaître dans les textes qu'il a écrits.
Oui, et puis le goût du travail qui s'est amorcé là, d'une certaine façon.
Donc, mais... 1931, la mission Dakar-Djibouti, sur cette ligne.
Cette ligne. C'était un moment fou ici, où il fait voter par le Parlement une loi, la mission Dakar-Djibouti. Il est le premier à faire de la sponsorisation de très haut niveau. Si vous voulez, ça pourrait se rapprocher un peu des expéditions antarctiques que faisait Charcot, où il emmenait de la blédine ou je ne sais trop quelle chose, qui lui donnait un peu d'argent et des vivres pour pouvoir vivre. C'était cette idée-là. C'est là où l'exploration, entre guillemets, rejoignait la recherche. Et l'une ne pouvait pas être faite sans l'autre. Mais tout ceci dans cette atmosphère extraordinaire qui était celle de ces jeunes gens des années 20 et 30, du bœuf sur le toit, des premiers orchestres noirs à Paris, de Duke Ellington, d'Armstrong, de la nouvelle peinture, de la poésie et du surréalisme. Tout ça a été là-dedans, ça n'aurait pas pu naître à un autre moment. Donc c'était parfaitement normal.
Qui évoque la mission Dakar-Djibouti. Éric Joly, quand on parle des objets rapportés de cette mission, comment est-ce que ces objets étaient collectés? Combien d'objets ont été collectés pendant cette mission?
Alors, pendant Dakar-Djibouti, il y a eu près de 3500 objets collectés, donc c'est énorme. Hein. Alors, il y a eu des différences, en fait, entre le début et la fin de la mission. Comme je l'ai dit au départ, en fait, il y a vraiment une collecte intensive au Sénégal et dans la première partie du Soudan français, l'actuel Mali. C'était l'idée de rapporter des témoins de la culture matérielle des sociétés traversées. Donc, l'idée, c'était pas de choisir des beaux objets, mais de trouver tous les objets, d'être le plus exhaustif possible et de rapporter des objets usuels comme des objets cultuels. Et c'est ce qu'ils vont faire vraiment de façon systématique pendant la première partie de leur voyage, en achetant la plupart de ces objets. C'était où, en faisant, dans la première partie, comme je le disais, ils faisaient des tournées, donc ils pouvaient aussi, en fait, inventorier tous les objets qui étaient dans une concession, etc., en essayant d'acheter le plus possible d'objets. Il y avait un côté on rafle un peu tous les objets, mais rafle pas dans le sens violent du terme. C'était l'idée qu'il fallait prendre le plus d'objets possible. Alors, il y a eu un certain nombre, c'est connu par le fameux livre de Michel Léris, L'Afrique fantôme, qui paraît en 1934, qui est le journal de voyage de cette mission. Il y a eu aussi des vols d'objets. Des vols d'objets qui concernent essentiellement en fait des objets cultuels, des fameux fétiches entre guillemets notamment au Soudan français, des objets rituels aussi en pays Dogon. Alors il faut se replacer dans l'époque. D'abord c'était pas systématique hein, ces vols. Si Léris en parle parce qu'il y avait un côté sacrilège justement, comme il le dit lui-même. Et puis c'était l'idée que de toute façon ils agissaient pour la science et que donc ça légitimait ces rapts d'objets. projet qui permettait ensuite de justement d'avoir les objets les plus sacrés possibles. Parce qu'il y a aussi justement une évolution dans la collecte. On disait qu'on partait d'objets absolument usuels, et plus on va aller dans l'expédition, plus ils vont s'intéresser à ces objets secrets, sacrés, y compris en pays d'Ogon, les fameux grands masques, Imnana, etc., qu'ils découvrent. Et c'est de plus en plus ça qui va les intéresser, d'où ces rapts de ces objets secrets, sacrés, qui vont rapporter effectivement ensuite au musée d'ethnographie
et Trocadéro. En quoi à l'époque ça aide la science de faire un ratissage finalement systématique des objets dans les villages?
C'était l'idée professée par justement Marcel Mauss que on ne pouvait étudier de façon exhaustive une société que si on avait aussi une vision exhaustive de leur culture matérielle, que les objets étaient les témoins de ces sociétés et que ça soit l'objet le plus simple ou le plus complexe, justement, cela donnait en fait une image assez représentative de ces sociétés. Il y avait l'idée en plus qui s'est développée notamment chez Griol que les objets les plus sacrés étaient des espèces de clés de voûte pour comprendre justement l'ensemble de la société, des clés de voûte pour comprendre des institutions plus ou moins secrètes. C'est le cas dans des grands masques Imnana en pays d'Ogon qu'ils considèrent comme la clé de voûte pour comprendre la société des masques, mais la société dans son ensemble.
Alors aujourd'hui, ces ratissages, ces vols ou ces emprunts, comme vous le souhaitez en termes ethnographiques, sont très contestés. Il y a beaucoup d'affaires de restitution auprès des pays concernés. Est-ce qu'à l'époque, il y a déjà cette idée de devoir restituer ces objets quand ils reviennent de la mission à Dakar-Djibouti?
Non, bien sûr, parce que d'abord, en fait, à part l'Eris qui dévoile, en fait, ces quelques, encore une fois, ce n'est que quelques vols d'objets, les griots et les autres ne se vantent pas d'avoir pillé tel ou tel sanctuaire au Soudan français. Pareil en Éthiopie, là, c'est pas un vol, en fait, il y a un échange qui peut être contestable d'anciennes peintures contre les copies, justement, faites par Roux, le peintre dont je parlais précédemment.
C'est-à-dire dans des églises?
Dans des vieilles églises. Le problème de la restitution ne se pose pas à l'époque. C'est l'idée qu'on a agi pour la science, qu'on a permis éventuellement, dans le cas des peintures d'Antonios, de sauver ces objets qui étaient condamnés à une destruction rapide parce que les églises étaient en mauvais état, etc. Donc il y a même une idée de sauvetage de ces objets. Et à la limite, aujourd'hui, je ne connais pas de discours de restitution même sur ces objets, qu'il s'agisse des bolis, par exemple, du Soudan français ou des peintures d'Antonios. Mais ça peut être un débat qui, effectivement, arrive sur la place publique.
Les informateurs, les guides locaux réagissent à cette captation?
Les interprètes et les guides, non, parce que, d'une certaine façon, ils sont complices de ces vols. Ils sont payés, tous ces gens-là sont payés par la mission. Il y a des hésitations, il y a des gens qui ne veulent pas, par exemple, aller prendre des objets sacrés dans les sanctuaires parce que c'est justement trop dangereux pour eux. Donc il y a des réticences, effectivement, de certains interprètes ou informateurs. Pour le grand masque, Griol raconte que c'est un enfant qui va lui montrer, en fait, les grands masques dans un de ses informateurs enfants, puisqu'il travaillait aussi sur les jeux avec les enfants, qui va lui montrer la caverne des grands masques où ils vont effectivement prendre ces grands masques. Non, par contre, il y a des demandes de restitution à l'époque, au moment des faits, c'est-à-dire, par exemple, ils vont voler un boli, cette espèce de fétiche, entre guillemets, fait d'amalgame de différents ingrédients, ce cochon de lait, comme dirait Léris dans son journal, ils vont être obligés de le restituer parce qu'il va y avoir une plainte au niveau de l'administration coloniale à Mopti, et l'administrateur va obliger la mission à rendre l'un de ces objets.
Et nous écoutons tout de suite Michel Léris, membre de la mission Dakar Djibouti.
Pour écrire l'Afrique fantôme, vous aviez pris comme parti, au départ, de faire un journal total, n'est-ce pas?
Et c'était pour ça que je faisais partie de cette mission. Et c'était mon camarade Marcel Griol un ethnographe très célèbre qui en était alors à peu près à ses débuts, qui m'avait proposé de participer à une mission qu'il comptait faire en Afrique, et qui m'avait proposé, comme je n'étais pas du tout ethnographe de formation, il m'avait proposé de tenir le journal de cette mission, ce que j'avais accepté. Mais étant entendu, ça c'était dans ces conditions-là que ça m'intéressait, et je ne le lui avais pas caché à lui, étant entendu que ce journal serait un journal total. Je veux dire un journal à la fois extérieur, ce journal de voyage, et journal intime.
À quel besoin ça répondait ?
Ben, très précisément à ce besoin de totalité qui a toujours été la visée surréaliste et qui est restée la mienne.
Et alors c'est là que se trouve affirmée pour la première fois la pénétration de vos différentes activités, celle de l'ethnographe que vous êtes devenu, et puis cette étude de soi qui aboutit à une œuvre.
Je vous dis que ça se situe encore comme ouvrage littéraire. Mais c'était dans mon intention, c'était tout de même, malgré tout, l'ouverture sur autre chose. Je ne dirais pas du tout que j'avais à ce moment-là l'intention de devenir un ethnographe professionnel, mais je voulais absolument changer d'atmosphère, voir d'autres choses, voir d'autres gens, prendre contact avec une autre civilisation que la civilisation occidentale, que... Comme tous les surréalistes, je peux presque dire que je vomissais.
Éric Joly, pourquoi Michel Léris n'est pas présent dans vos cahiers de la mission Dakar-Djibouti ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une restitution de l'Afrique fantôme ?
L'Afrique fantôme, non, mais ça c'était un choix éditorial, c'est-à-dire en fait on ne reproduisait pas les livres qui étaient tirés de cette mission, parce que tout simplement, reproduire les livres, il y a déjà quand même 1400 pages, reproduire les livres issus de la mission, c'était 2500 pages, donc il y avait un choix. Par contre, on a reproduit un extrait qui n'était pas l'extrait définitif, puisque c'est, en fait, Léris avait choisi un extrait, mais en gommant certains passages dans le document, et c'est ce passage-là qui concerne le Bénin, qu'on a reproduit dans les cahiers Dakar-Djibouti.
Alors on continue à écouter Michel Léris nous parler d'injustice sociale coloniale.
Injustices sociales, enfin, qui sont très nombreuses et très fortes, et qui peuvent révolter. Enfin, celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'ont des gens qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque. Ce mépris, enfin, dont ils écrasent, des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourraient leur donner des leçons.
Pour vous, au fond, l'ethnologie doit être engagée. Elle l'est de fait.
Il me paraît très difficile qu'il en soit autrement. D'abord pour une raison très simple. Quand on enseigne, enfin, un jeune ethnologue, qu'est-ce que lui apprennent ses maîtres ? C'est que qu'il faut qu'il soit en bon terme. Il ait des rapports, en somme, sinon amicaux, du moins cordiaux, avec les gens qu'il étudie. Bien. Alors, si j'ai ces rapports cordiaux avec eux, et que ça reste une chose de pure surface, je suis le dernier des hypocrites. Donc je crois que si j'ai ces rapports extérieurement cordiaux, il faut aussi qu'ils le soient profondément. Donc, de fil en aiguille, je suis amené à épouser les soucis, les revendications des gens que j'étudie.
Mais en même temps, l'ethnologie vous a apporté beaucoup sur le plan personnel. Elle vous a apporté une méthode de travail.
Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Vous savez, c'est seulement depuis quelques années que je m'aperçois que l'ethnologie est pour moi un peu plus qu'un second métier. Pendant des années, ça a été simplement le métier le moins ennuyeux que je pouvais faire, étant donné que la littérature n'est pas un métier.
Éric Joly, comment sera utilisée de manière politique la mission Dakar-Djibouti ?
En fait, il y aura de la part du musée d'ethnographie donc cette volonté d'être reconnu par l'État et par le gouvernement, par les politiques et par le grand public. Mais au niveau politique, finalement, on n'est pas... Michel Léris parlait d'ethnologie engagée. Dans les années 30, en fait, on n'est pas du tout dans une ethnologie engagée. Y compris d'ailleurs Léris, hein, son engagement date de l'après-guerre. Donc, non, il n'y a pas tellement de retombées politiques. Sinon, ce discours récurrent des ethnologues, que l'ethnologie peut servir à la colonisation, peut servir à justement comprendre les colonisés, donc pour une colonisation plus humaine, plus rationnelle, puisque si on connaît mieux les gens, on peut mieux les administrer, etc., etc. Mais ça reste un discours qui finalement n'a pas beaucoup de débouchés, c'est-à-dire en fait l'administration coloniale va pas véritablement demander leur avis aux ethnologues. En fait, ils vont plutôt demander aux administrateurs coloniaux de produire, par exemple, des coutumiers juridiques sur les sociétés. Et en fait, la collaboration entre coloniaux, entre administration coloniale et ethnologues sera pratiquement nulle dans les territoires français, contrairement par exemple aux colonies britanniques, où il y avait une véritable collaboration entre ethnologues et administration coloniale.
Et d'un point de vue scientifique, est-ce qu'on peut dire que c'est le musée de l'homme ? Le musée de l'homme est né de la mission Dakar-Djibouti ?
C'est peut-être un peu excessif parce que là, donc le musée de l'homme est inauguré en 38, donc quand même assez longtemps après. Ce qu'on peut dire, c'est que la mission Dakar-Djibouti permet la rénovation du musée d'ethnographie, puisque c'est à partir du retour de la mission Dakar-Djibouti que se crée par exemple le département d'Afrique noire, la salle d'Afrique noire qui est inaugurée au moment de l'exposition Dakar-Djibouti, que se crée le département d'ethnomusicologie dirigé par Scheffner, qui revient juste de la mission Dakar-Djibouti. Donc la rénovation et le développement du musée d'ethnographie doit beaucoup effectivement à la mission Dakar-Djibouti.
Merci Éric Joly pour ce voyage de Dakar à Djibouti aux côtés de Marcel Griol et de son équipe. La série Les Grandes Expéditions Scientifiques se réécoute et est disponible en podcast sur franceculture.fr. Cette série vous est proposée en partenariat avec Science et Vie. Une émission produite par Arnaud Contreras, réalisée par Anna Smuk. Prise de son Stéphane Desmonts, mixage Bernard Lagnel.
Ancestral. Tremendo bate, Sasha.